Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde dans RTL Soir.
Et on refait le monde à 19h31 ce soir avec Nicolas Damenac, Clémentine Autain, Jean-Luc Manot et Geoffroy Lejeune. Sur RTL, l'état d'urgence pour l'emploi. François Hollande a donc présenté son plan de la dernière chance pour faire baisser le chômage. Parmi les annonces majeures, vous les avez entendues, 500 000 chômeurs en formation, une aide à l'embauche de 2000 euros pour les PME, la relance de l'apprentissage et un CICE pérennisé, coût total 2 milliards d'euros. Puis vous avez vu, les 35 heures restent telles quelles, sauf qu'il y aura donc des accords d'entreprise qui permettra de les contourner. Alors François Hollande, peut-il vraiment réussir sur les réseaux sociaux, Benoît ?
On a du mal à espérer. On ironise surtout sur le plan de Hollande pour sauver son emploi, à droite comme à gauche. Pour une fois, entre le libéralisme sans conscience et l'immobilisme sans avenir, Hollande invente le libéralisme sans résultat, tacle d'entrée le député frondeur Laurent Baumel. Il confirme des dispositifs qui n'ont pas fait leur preuve en les amplifiant encore, regrette le leader du PCF, Pierre Laurent. À droite aussi, on se gausse. Roger Karoutchi tweet que pour la 17e fois en 4 ans, Hollande annonce son plan emploi après l'incantation ratée à l'inversion, opération maquillage des chiffres. Même truqué, il y aura toujours de mauvais chiffres, car ce gouvernement ne s'attaque pas aux véritables causes, soupire Alain. Il y a eu les pactes, puis les chocs, maintenant l'état d'urgence. La réalité, c'est que le troisième tiers du quinquennat tente de corriger les âneries du premier. Et donc au final, on sera plus bas qu'au point de départ, craint Alain. Aimé parle de triste contre-la-montre électorale, ou comment se faire financer une campagne électorale sur le dos des citoyens. Trop cher pour un résultat attendu nul, grince Michel, tout ce qui contribue à la baisse des charges est bon à prendre. Les commandes, c'est autre chose, tempère Merlin. Oui, mais là, c'est du siphonnage, conclut Chopin. Plus de gens en formation, moins de chômeurs pendant un temps, mais après, c'est l'inconnu.
Jean-Luc Manot, donc, un président qui tente tout pour le tout en allant dans la bonne direction ?
Ben, les mesures qui sont proposées ne sont pas condamnables en tant que telles. Le problème, c'est que si vous prenez une... Vous prenez une graine, vous la plantez et ça ne donne rien. C'est pas parce que vous allez en mettre 100 ou parce que vous allez mettre une grosse graine que ça va changer quoi que ce soit. C'est que la méthode est pas au fond est pas la bonne et que jusqu'à maintenant ces méthodes-là n'ont jamais fonctionné. C'est-à-dire que prenons
pas très bien compris la métaphore de Jean-Luc le jardinier là.
Voilà, je vais la répéter. C'est pas parce qu'on fait puissance 1000 la même erreur. Ah. Qu'elle va devenir une bonne solution. J'aurais peut-être pu effectivement la faire plus directe comme ça. D'abord parce que ça aurait été plus simple, et deuxièmement, quand il y a Nicolas, il faut être très clair. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que vous prenez les 500 000 chômeurs. Et c'est quoi l'objectif ? C'est de leur trouver un travail ou c'est de les sortir de la catégorie A pour la mettre dans la catégorie C ?
C'est de les former pour qu'au final ils soient.
C'est pas la même chose. Nettoyer les statistiques ou trouver des emplois ou trouver les conditions pour créer des emplois, c'est pas tout à fait la même histoire. Maintenant, sur le reste des mesures, moi, j'ai pas d'opposition majeure à ce qu'on facilite pour les entreprises l'emploi, la possibilité d'employer des gens.
C'était les mesures de Raymond Barre, comme le rappelait tout à l'heure.
Exactement. Il y a 39 ans, Raymond Barre présentait un pacte contre le chômage et pendant quelques décennies, les mêmes recettes néolibérales ont été utilisées par les gouvernements successifs avec un taux de chômage qui atteint des records. Donc le plan de Hollande est un énième plan qui peut produire un effet, c'est-à-dire une petite baisse du nombre de personnes inscrites au chômage par le biais de ceux qui sont formés. Mais je crois que le problème, c'est que ça part de plusieurs postulats qui sont totalement faux. D'abord, le postulat qui est cher au MEDEF, c'est-à-dire il y aurait un coût du travail auquel il faudrait s'attaquer. Or, il faut avoir en tête que dans la part de la valeur ajoutée, le salaire prend une place de plus en plus petite. Ce qui a augmenté ces dernières décennies, c'est la part de la rente, c'est-à-dire des dividendes versés aux actionnaires et des rémunérations des grands patrons, pour faire court. Donc, à partir de là, on voit bien que abaisser le prétendu coût du travail, mais rappelons quand même que le travail, c'est ce qui produit la richesse, donc ce n'est pas un coût, c'est ce qui produit la richesse, mais baisser les salaires, ça ne sert à rien pour lutter contre le chômage. Il faut partir d'une autre logique et au contraire de s'attaquer à ces revenus qui sont des revenus de la finance. En fait, s'attaquer à la finance. Deuxième question, la formation. Depuis quand former des chômeurs permet de leur trouver un travail ? Je formais les chômeurs. Non, mais attendez, laissez-moi
c'est
expliquer.
C'est justement parce qu'ils n'ont pas de formation qu'ils sont parfois au chômage.
Eh ben non, je vais vous dire, c'est pas du tout ça qui se passe. Permettez-moi juste d'expliquer point de vue.
Mais allez-y vite.
Non, justement, le problème des entreprises, c'est le carnet de commandes. C'est une économie qui est totalement atone. Quand vous formez des chômeurs, vous élevez leur niveau de qualification, vous leur donnez éventuellement plus de chances d'être haut dans la file. mais la file d'attente, elle est toujours la même.
Non, voilà, on peut donner aussi la possibilité de prendre une autre direction et de ne pas être dans la même file, de prendre une autre file.
Ça ne crée pas de l'emploi. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être bon pour tel ou tel chômeur. Ça peut lui permettre de trouver un emploi qui est plus satisfaisant, etc. Mais ça ne crée pas de l'emploi.
Non, mais c'est
Mais bien sûr que c'est
complètement caricatural, Clémentine Autain. Pardon, mais le décalage.
Vous pensez qu'il y a des millions d'emplois qui existent sans être occupés, justement, parce que.
Dans chaque région, il y a des milliers d'emplois, effectivement, qui ne sont pas satisfaits. Parce que la demande ne correspond pas à l'offre.
En général, c'est des emplois sous-qualifiés, mal payés.
C'est pas vrai. Mais de même, quand vous dites, au fond, c'est des mesures, des vieilles recettes néolibérales, mais attendez, je veux dire, si c'était le cas, je veux dire, la droite applaudirait à tout rompre en disant on a gagné. Je veux dire, c'est faux.
C'est faux sur la formation et l'apprentissage.
On peut regretter que les mesures viennent trop tard. C'était d'ailleurs pour la plupart des mesures proposées dans le rapport Attali en 2008, mais non pas chez Raymond Barre, c'est inexact. Et bon, et là, Attali peut dire c'est un scandale. J'avais proposé ça il y a 8 ans, et voilà qu'on attend que les régions passent à droite, alors que si elles avaient. C'est ballot, parce que si elles avaient été appliquées, ces recettes-là, elles auraient été mieux par des présidents de gauche. Donc ce que je crois, moi, c'est que de toute façon. Peu de monde croira à la réussite de ces mesures, même si elles réussissent. Elles réussiront partiellement et pas massivement, mais elles réussiront peut-être de manière suffisante pour que François Hollande soit candidat, mais vous avez un problème pour la droite ensuite, et j'en terminerai par ça.
Non mais attendez, là, est-ce qu'elles appliquent dans les régions Il ne s'agit pas de l'avenir de François Hollande en 2017.
Non mais je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que je dis le problème. C'est pour ça que je vous dis que le problème est posé à la droite, qui a plus de régions que la gauche. Est-ce qu'ils vont appliquer ou pas un certain nombre de ces mesures? Certains disent oui, comme Xavier Bertrand, et à mon avis, ils ont raison, et d'autres disent non, comme
juste
Laurent Wauquiez.
Juste pour planter François Hollande. Geoffroy Lejeune.
Le problème, mais même, je pense que vous avez raison, le problème n'est pas de savoir s'il y aura plus ou moins de chômeurs à la fin du quinquennat, le problème est de savoir comment François Hollande va pouvoir présenter tout ça pour justifier sa candidature. C'est quand même le cœur du problème, il est là depuis le début de ce quinquennat.
Enfin, l'un peut aller avec l'autre d'ailleurs.
Je serais très heureux s'il y avait moins de chômeurs, mais le problème, c'est que depuis 2013 et la fameuse inversion de la courbe qui n'est jamais arrivée, il a lié son deuxième mandat et sa deuxième candidature à la réussite de ces fameux pactes et chocs. Maintenant, vous pouvez croire, Nicolas, que 500 000 chômeurs en formation, ça va faire baisser le chômage. La vérité, Clémentine a raison, il n'y a pas 500 000 postes à leur proposer, donc ça ne marchera pas dans l'absolu.
Et puis, l'alliance du libéralisme et du radicalisme d'extrême gauche, quand ils se donnent le bras, c'est très touchant.
Mais elle a raison, c'est pas parce que l'extrême gauche qu'elle n'a pas raison.
D'abord, arrêtez de me qualifier d'extrême gauche, je vais finir.
Non, de gauche radicale.
Vraiment me fâcher.
Et la dernière
chose. Être de gauche, déjà, vous trouvez pas que c'est pas mal par les temps qui courent?
Et sur l'idéologie, vous devriez dire oui, elle a raison. Et sur l'idéologie, il y a un autre problème, c'est que
on n'en a pas parlé,
mais les 2000 euros donnés aux entreprises sur 2 ans qui embaucheront des salariés, moi je ne connais pas d'entreprise qui embauche pour gagner 2000 euros fois 2. Je ne connais pas, ça n'existe pas, ça coûte tellement plus cher et c'est tellement plus compliqué que ça que là encore, Clémentine a raison, le problème c'est le carnet de commandes et donc l'activité, donc la croissance. Et donc
on va avoir un débat.
Je trouve que s'il y arrive, c'est miraculeux à la fois pour les gens qui attendent un emploi, et c'est quand même ça qui est
l'enjeu, évidemment.
Et pour lui aussi, parce qu'encore une fois, je crois que ces mesures-là, elles ne sont pas de nature différente que ce qui a déjà été fait par le passé. C'est pas exactement un signe d'égalité avec Raymond Barre ou avec d'autres. Mais enfin, ce sont des mesures qui ont déjà été utilisées. Mais ce que je veux dire, c'est que si on le faisait avec une certaine transparence et une certaine honnêteté politique. Parce que c'est vrai que François Hollande a pollué ce débat en liant la question de l'emploi avec la question de sa candidature. Si on disait aujourd'hui, écoutez, on va mettre le paquet pour qu'il y ait 500 000 jeunes qui soient formés, tout le monde applaudirait. Si on disait 500 000 jeunes sont formés, mais les 500 000 jeunes en formation, ça reste des chômeurs. Parce que la vérité, c'est que des gens en formation, ça reste des chômeurs. C'est ça qu'ils attendent. Alors là, on serait dans davantage de transparence. On ne jouerait pas avec des petites conditions politiques.
On reprend ce débat dans un instant.
RTL Soir jusqu'à 20h. On refait le monde. Marc-Olivier Fauché.
Et on reprend notre débat donc sur le plan anti-chômage de François Hollande ce soir avec Nicolas Domenac, Clémentine Autain, Jean-Luc Manot et Geoffroy Lejeune sur RTL. Cette façon de pouvoir contourner les 35 heures donc avec des accords par entreprise, Geoffroy Lejeune, c'est une mesure de droite.
Ouais, c'est une mesure.
Comme le pacte de responsabilité, ça doit vous plaire, non?
Et non, moi j'ai pas applaudi le pacte de responsabilité. D'ailleurs, ça a pas marché. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour le dire. Maintenant, ce qui est marrant, c'est toujours pareil avec François Hollande, c'est cette façon de faire quelque chose sans vraiment l'assumer quand on est les 35 heures, parce que ça hérisserait une partie de sa gauche, voire toute la gauche. Donc, c'est fait sans être dit. Donc, ça marchera pas, à mon sens. Voilà.
Mais je sais pas, je comprends pas très bien ce débat là. Ce qui est important. Non, excusez-moi, mais je le trouve très très politicien. Moi,
la question qui nous est
posée. La question qui nous est posée, c'est voilà, un président de la République qui est au pouvoir, il propose un plan dit d'urgence pour lutter contre le chômage. Est-ce que les solutions sont efficaces ou pas pour résorber le chômage? Bon, sur le fond, je le redis, je pense qu'elles ne le sont pas parce que il ne s'attaque pas à la place de la finance dans le rapport entre la plus-value, la part qui va au salaire et la part qui va au capital qui est de plus en plus grande, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il faudrait que l'État se donne les moyens, par le biais de l'impôt, par le biais aussi du crédit, de permettre que se développent des emplois qui soient des emplois utiles. Utiles à la transition énergétique, utiles aux besoins sociaux émergents. Je pense par exemple aux besoins de la petite enfance, au quatrième âge. Enfin, on voit bien qu'il y a dans notre société des besoins pour lesquels les emplois, on ne les trouve pas. Donc comment on relance une dynamique économique qui soit au service de l'emploi et aussi la question du partage du temps de travail. Parce que là, la mesure dont vous parlez, elle va se traduire comment? Elle va se traduire par un moins de salaire pour un certain nombre de salariés qui faisaient des heures supplémentaires.
Ça
touche sur les heures supplémentaires.
Ça touche aussi sur des
si
entreprises
vous annualisez,
où pendant des périodes de l'année, elles travailleront 40 exactement. Heures et d'autres où elles travailleront 35.
Précisément. Mais donc, si vous annualisez, ça veut dire que ce qui était des heures supplémentaires vont se traduire par pas des heures supplémentaires, donc un moins 10 ans sur les salaires. Ouais, donc, ce n'est pas un progrès de ce point de vue. Et le partage du temps de travail dans nos sociétés ne doit pas être tabou. C'est l'une des conditions pour résorber le chômage aujourd'hui.
Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ce qui vient d'être dit par Clémentine. Je pense qu'il n'y a pas de salut dans le développement, par l'impôt ou par quelque moyen que ce soit, de développement par l'État d'emploi d'État. C'est-à-dire,
je ne parle pas que
plus,
d'emploi d'État, monsieur
plus,
Manot.
Pas plus,
c'est
pas
faux.
Plus, pas plus, pas plus. Quand elle est en colère, elle m'appelle monsieur Manot. Pas plus, Clémentine, pour la petite enfance que pour la grande vieillesse. Je crois que la vraie question qui est posée dans ce pays, c'est de faire que le privé fonctionne et que on remplisse effectivement les carnets de commandes et qu'on crée de la valeur ajoutée dans l'industrie qui a été détruite et dans l'ensemble des secteurs d'innovation. Je prends l'exemple que je trouve le plus, ce que je reproche le plus dans le plan, moi, c'est ce qu'il dit sur les heures supplémentaires, effectivement cette manière de contourner les 35 heures sans le dire. Avant, on avait un truc qu'on a critiqué d'ailleurs, mais Sarkozy avait décidé de travailler plus pour gagner plus. Et donc, je paye des heures supplémentaires. Là, François Hollande nous dit travailler autant pour gagner moins. C'est-à-dire qu'on va continuer à avoir des heures supplémentaires, mais on va pouvoir moins les payer. En quoi ça change? On continue à faire des heures supplémentaires, sauf que ça ne sera pas payé. Oui. Le seul truc qu'il y avait avant, c'est qu'on les payait, et c'est exactement ce qu'a dit le secrétaire général de Force Ouvrière, Mailly, tout à l'heure. S'il y a un progrès, c'est de ne plus payer les heures supplémentaires, c'est quand même une notion du progrès qui est assez loin. Non,
c'est une façon de récupérer une erreur que François Hollande a reconnue lui-même en disant qu'il aurait
il
n'aurait pas dû supprimer ses heures supplémentaires.
Mais là, il dit on ne va pas les payer.
La défiscalisation des heures supplémentaires.
Pardon de troubler votre charmant duo sur ce qui manque dans ce plan. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est ce qu'il y a dedans. Et je trouve que ce qu'il y a dedans, en l'occurrence, c'est la formation et le rôle des régions. C'est ça qui est neuf. C'est-à-dire, c'est de leur donner des responsabilités. Et en plus, c'est eux qui.
Les régions ont la responsabilité de la formation depuis belle lurette.
Non, pas à ce point-là. Et en plus, avec des moyens, augmentés. Non. Donc.
C'est vrai qu'elles ont quasiment les pleins pouvoirs maintenant.
Voilà, elles ont les pleins pouvoirs maintenant. C'est ça qui va changer. Et alors, c'est pour ça que je trouve que la question politique est posée au président de région, savoir comment, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et quand j'entends,
je termine juste,
ça repose sur la droite en grande partie, et c'est un problème politique délicat, je comprends. Mais quand j'entends, j'ai cité Laurent Wauquiez qui dit on ne sera pas la roue de secours, et Hervé Morin avant qui avait dit on ne sera pas la roue de secours du Titanic, bon, c'était une expression un peu malheureuse, puisqu'on sait bien que ce n'était pas un bateau à roues.
Mais, vous le savez, manifestement pas lui.
Mais en tout cas, ça dit bien des attitudes politiques qui sont, à mon avis, suicidaires pour la droite. Pour la droite. Alors que celle de Philippe Richert d'un côté ou de Xavier Bertrand
dans le Grand Est ou dans le Nord.
Je trouve, et d'Estrosi en partie, je trouve que ce sont des attitudes de progrès. Voilà,
je voulais répondre à monsieur.
Là-dessus, rapidement, Clémentine.
Manon, sur l'État, parce que c'est un procès qui est souvent fait. Mais quand je dis la puissance publique doit intervenir, c'est que par exemple, quand vous devez faire de la rénovation thermique en masse, si vous voulez répondre à l'exigence de transition énergétique, si vous voulez que les transports en commun se développent, il faut bien impulser. Ça ne veut pas dire que c'est l'État des entreprises nationalisées qui font le travail. Mais il y a bien une impulsion. Et cette impulsion, elle revient au pouvoir public. Et on ne peut pas simplement dire, écoutez, on attend des entreprises qu'elles fassent. On ne s'intéresse pas. Sinon, la politique
vous,
ne sert à rien.
Allez, dans un instant, on parle de la Corse et du continent. Je t'aime, moi non plus.